Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 30 janvier. C'est Cinérama qui débute. Alors aujourd'hui, eh bien, 6 films. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Oui, alors aujourd'hui, je lance une nouvelle rubrique, ça s'appellera Le Bon, La Brute et Le Raté. Il sera question de 3 films qui sont encore à l'affiche ou qui sont sortis cette semaine. Donc je ne vous dis pas lequel et quoi, mais il sera question pêle-mêle de Zao Dark Thirty, de Blanca Nieves et de L'Ivresse de l'Argent.
Et puis tu en termineras avec les top flops.
Voilà, aussi, on est arrivé aux 3 premiers des meilleurs films de 2012.
Et puis oui, on a reçu un courrier nourri, énormément de mails nous demandant « mais c'est insoutenable, comment on ne peut pas connaître les 3 films qu'a apprécié Marine en 2012 ?»
D'autant plus qu'entre-temps, une autre émission nous a complètement pompé, je crois, le masque et quelque chose.
Ah, ils ont fait aussi ça.
Oui.
Et puis, eh bien, nous écouterons aussi des interviews, parce qu'il y avait beaucoup d'avant-premières lors de ce début d'année 2013. On écoutera Norman Tavo et puis Maurice Barthélémy pour Pas très normal activité. Ouais, voilà. Amitié sincère, donc ça, c'est un film co-réalisé par Stéphane Archinard et François Prévost. L'Égonie, on les écoutera tous les deux avec Gérard Lanvin. Et puis, on aura un petit mot de Gérard Lanvin, un petit mot polémique de Gérard Lanvin. Et puis, c'est à peu près tout. Moi, je vous parlerai aussi de cette psychopathe, mais très rapidement, en fin d'émission, c'est Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Sur Divergence FM.
Pas très normal activity, donc de Maurice Barthélémy. C'est un ancien des Robin des Bois. Alors, c'est l'histoire d'un jeune couple dans une vieille maison de la Creuse. Et à mesure que les jours et les nuits passent, ils captent avec leur caméra des événements étranges. La mise en scène respecte le dispositif du found footage. Tout ce qu'on voit est capté par la caméra de Norman. Et en fait, Norman, il a juste un portable. Il s'agit d'un huis clos qui va accueillir quelques invités, dont un vidéaste amateur lubrique qui permettra de multiplier les points de vue grâce à son matériel sophistiqué. Le casting est minimal, le scénario l'est tout autant. Et le film est un pastiche non seulement des found footage, mais aussi de ce principe de paranormal activity. Alors, ironie, paranormal activity, ils en sont aux 4, je crois, 4, 5 peut-être, et produit par la Paramount. Et là, le film Pas très normal activity, donc qui se moque de paranormal activity, est distribué par la Paramount. Et donc, c'est un film décalé. Pas très normal activity ne fonctionne qu'avec son interprète, Norman Tavo, qui a été connu pour avoir fait des vidéos sur Internet. C'est un film assez générationnel. J'ai presque envie de dire que si vous avez plus de 50 ans, que vous êtes pas très au fait de ce qui se passe sur le net, vous serez peut-être pas forcément convaincu par Norman.
Et puis dans 5 ans, ça n'aura plus aucun sens, je suppose. Enfin, c'est un film qui devait sortir cette année et qui n'aurait pas pu sortir 2 ans avant ou 2 ans après.
Voilà, c'est un film très générationnel et très marqué. On écoute en revanche le réalisateur et l'acteur.
Au départ, je trouve le titre et je me dis « Oh là là, avec un titre comme ça, Pas très normal activité, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Oh ben oui, forcément, ça pourrait être inspiré de Paranormal Activity, ça pourrait se passer... Alors il faudrait faire une sorte de Paranormal Activity, mais à la française. Ok, donc à la campagne, ok. Mais alors pour ça, il faudrait réunir 2 jeunes qui correspondent bien à l'esprit un peu parodique du titre. Donc à ce moment-là, je pense à Norman d'un côté.
Bonsoir les kids.
Et puis Stéphie, on se rend compte par la suite, parce que je l'avais vu dans Casse Départ. Et dès le premier rendez-vous, j'ai senti que c'était la bonne personne. Alors je l'ai un peu impressionné en disant que je rencontrais des actrices internationales que j'ai absolument pas rencontrées. Alors je leur ai fait passer des essais un peu particuliers. J'aurais fait jouer une interview de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme avait accordé des interviews au journal Première. Et je trouvais que l'interview était tellement surréaliste que ça m'intéressait qu'ils l'interprètent, mais à leur manière, non pas à la Jean-Claude Van Damme, ce qui était un exercice. Et puis, ils s'en sont très très bien sortis tous les deux. Et voilà, ils ont été assez vite sur le coup.
Je suis un garçon qui aime bien rester dans les mêmes hôtels normalement. Et même dans les mêmes chambres. Ils me donnent toujours les mêmes chambres. Et j'ai vu les chambres changer.
Voilà l'origine du projet. J'avais envie de confronter mon univers d'ancien Robin des Bois à la retraite avec l'univers de cette nouvelle génération qui arrive, dont fait partie Norman. Et du coup, bah, voilà, ça s'y prêtait plutôt bien. Je tiens à dire que ce n'est pas vraiment une parodie, c'est plus un film inspiré d'eux. Et je joue pas sur les mots, mais... Dans parodie, généralement, on a un peu l'idée d'un spoof movie, un peu scary movie, ce qui n'est pas le cas. Là, c'est clairement un film qui utilise les codes de Paranormal Activity, mais c'est plus le cadre. Et à l'intérieur, j'ai raconté une histoire qui m'intéressait de raconter, qui était l'histoire de ce jeune couple qui aménageait à la campagne.
Ça, c'est le nouvel Ibiza, ça.
1-2-1-2, this is a test.
Allez, c'est qui le patron ?
C'est vrai que c'est une petite fille, c'est vrai.
Putain, c'est quoi ce bordel? Mais qui a fait ça? Qui a bouffé mes grappes?
Quoi, c'est l'humour de la Creuse?
Ah non, je suis pas de la Creuse, non.
Ah ouais, donc, du coup, c'est l'humour de la Martinique, mec.
Non, mais t'arrêtes direct.
Mais en fait, j'ai reçu un email quand je faisais un tour du monde, il y a un an de ça, pour un tour du monde en vidéo. Moi, j'étais comme un fou. Au début, j'ai voulu accepter le rôle sans avoir lu le scénario. Alors mes potes derrière font « lis-le quand même un petit peu, lis au moins quelques lignes ». Alors j'ai lu quelques lignes, en fait, finalement j'ai tout lu, en une heure ou deux, et directement j'ai accepté dans la foulée.
Il faisait deux pages de scénario, donc c'est facile.
C'est écrit vraiment tout petit, en fait. en deux secondes, j'ai kiffé le rôle, en fait. Quand j'ai commencé à lire les... Parce qu'on m'avait déjà fait quelques petites propositions de ciné, 5-6 pour tout vous dire, où c'était pas forcément les premiers rôles, pas forcément les meilleurs scripts non plus, et... C'est sans prétention ou quoi, parce que pour moi c'était un rêve de faire du ciné, quoi. Mais c'était des scripts qui me faisaient pas rire, en fait, tout simplement, qui étaient pas très drôles, un peu fades, qui me convenaient pas et tout. Donc j'ai longuement hésité, puis je leur ai dit non. Et puis je reçois le script de Maurice, et dès les premières lignes de dialogue, quand je jouais le personnage de Blin, enfin quand je lisais le personnage de Blin, directement je me suis mis à le jouer, en fait, dans le lit, j'étais comme ça en train. J'ai joué toutes les répliques de Blin dès ma première lecture. C'est-à-dire à quel point j'étais bien dans le perso, quoi.
Minus, en fait, on l'a retrouvée morte en bas des escaliers.
Ça, je crois que c'est un truc grave.
J'adore le côté bourru des bourrins.
Je vous présente Karine, ma copine.
Bonjour.
J'aime beaucoup, très bon choix.
Toi, t'es une pourriture, quoi, mais il n'y a pas plus pourri, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi.
On se tutoie.
Je leur ai dit, c'est à vous de vous approprier ce texte, parce que moi, je ne sais pas écrire pour des gens comme de votre âge. Donc, du coup, ils se sont mis en bouche ce texte. Ils ont changé des expressions qu'ils trouvaient trop ringardes, comme batte, chouette, épatant, cool.
Sensationnel.
Sensationnel. Et donc, ils l'ont mis évidemment, ils l'ont mis à leur sauce. Et moi, surtout, je les ai laissés faire, parce que c'était un film... voilà, il fallait que ça soit juste.
Mais c'est quoi ça?
C'est de la merde.
Oh putain, mais c'est la glo qui tue cette baraque.
Alors la chouchoutitude continue là.
J'ai vraiment l'impression qu'ici il se passe des trucs pas très normaux.
Pas très normaux.
Pardon?
Non, c'est juste on dit pas très normaux.
Ouais.
Moi j'ai fait des études de ciné pendant presque 8 ans. J'ai redoublé 2 fois. Ça faut pas l'écrire.
T'as fait 2 fois 4 ans?
Non, en fait, j'ai fait un lycée cinéma où j'ai mon bac ciné. Après, j'ai fait une licence où j'ai redoublé 2 fois. Bon, bref. Et j'ai appris plus en 5 semaines de tournage qu'en 8 ans de ciné, limite. Parce que sur le terrain, c'est tout est beaucoup plus parlant. Moi, j'avais pas du tout l'ambition de faire ça à la base. J'ai fait mes petites vidéos dans mon coin où je joue mes petits persos parce qu'il y a personne pour les jouer à ma place, quoi. Et puis, en fait, en arrivant le premier jour sur le tournage, je me suis dit, j'avais un petit peu un peu les boules, je me suis dit à tout moment, on commence la première prise du premier plan, de la première séquence, et tout le monde m'a regardé en disant « D'accord, donc ce mec est nul à chier, on va tout de suite le changer. » Et en fait, apparemment, ça a fonctionné, puis directement, ça chantait l'équipe qui se marrait après mes prises, une très bonne ambiance qui s'est installée. Des fois, j'avais un petit peu de mal sur des scènes un peu plus, où il fallait faire le baiser de cinéma, etc., avec Stéphie, qui m'a mis un peu à l'aise, donc finalement, ça a tourné, et à la fin du tournage, Je me suis senti finalement devant la cam de ciné pareil que dans mon salon en fait. C'est vrai quand tu, enfin quand tu te dis c'est parti, sur ton personnage qui est zéro personne ou 25 autour, tu fais ton attitude en fait. C'est la même chose.
En fait, Stéphie et Norman, ils ont une attitude face à la caméra qui est extrêmement naturelle, c'est vrai, qui est vraiment liée à cette génération. Comme c'est une génération qui a passé pas mal de temps à s'auto-filmer, où la caméra pour eux, et même si c'est une grosse caméra de cinéma, ça reste une caméra. Donc ils ont en fait un rapport avec le fait d'être filmé qui est vraiment très différent d'une autre génération. Et ce qui fait qu'à l'écran, je trouve qu'ils sont très très naturels, très spontanés. Et ça, je crois que c'est vraiment lié à cette génération-là. Nous, on avait peur de la caméra, les vieux. Mais eux, ils l'ont complètement adopté. Et du coup, je trouve qu'il y a un nouveau style de jeu qui apparaît, qui je trouve hyper chouette.
Moi, je suis un bonhomme. Regarde comment je suis stock. Moi, je suis une Kalachnikov.
Swag. Swag. Quoi?
Le nouveau style de jeu de la nouvelle génération était pas flagrant quand j'ai vu le film. Voilà, c'est pas très Normal Activity de Maurice Barthélémy, donc avec Norman, on l'a bien compris. Si vous êtes un adepte de Norman, eh bien foncez. Si vous aimez aussi l'humour de Robin des Bois, enfin de l'ex des Robin des Bois, vous pouvez aussi foncer. Ça passe au Gaumont Cinéma.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Et on passe donc maintenant à la trilogie du mercredi, Vincent. C'est le bon, la brute et le raté. On commence tout de suite. Le bon, c'est Blanca Nieves, dont on entendait la musique à l'instant, de Pablo Berger. Blanca Nieves, c'est le petit film qui marche très bien et qui fait parler, et pour cause, puisqu'il représente l'Espagne aux Oscars cette année. Et en plus, il est en noir et blanc et il est muet.
Oui, mais pas deux années de suite, c'est pas possible.
Rien à voir justement pour autant avec un certain film français qui avait tout raflé l'année dernière, puisque si The Artist était un hommage au cinéma muet, Blanca Nieves, lui, le réinvente totalement. Alors l'image en noir et blanc est très soignée, elle ne cherche pas du tout pour autant à faire dans le vintage. La mise en scène est au contraire d'une modernité vraiment confondante, le montage est très dynamique. Et c'est un film, oui, qui est profondément féministe, avec des personnages féminins haut en couleur, si je puis dire. D'ailleurs, je pense à faire une rubrique dans pas très longtemps, ce sera le film féministe du mois. Mais ça va, vous avez encore un petit peu pour vous y préparer, je le ferai quand j'aurai un jingle digne de ce nom. Donc c'est le début du XXe siècle, les années 20 et le milieu de la tauromachie qui servent de contexte à cette variation autour du mythe de Blanche-Neige. Pas évident de dépoussiérer une histoire labellisée Walt Disney depuis quand même un demi-siècle. C'est d'ailleurs la troisième réinterprétation du mythe cette année. On avait eu la première version de Blanche-Neige façon comédie pour enfants avec Julia Roberts. On a eu ensuite une Blanche-Neige beaucoup plus sombre, un petit peu héroïque fantasy avec Charlize Theron, qui était du coup la dernière version. Et donc celle-là, façon espagnole, eh bien cette version, c'est de loin la plus libre, la plus inattendue. Elle vaut vraiment le détour et il ne faut pas du tout se laisser impressionner par le côté un petit peu élitiste comme ça que ça peut avoir. Donc, parce qu'en fait, au contraire, on se laisse vraiment happer par le film extrêmement vite. Et en plus, il dure 1h30 et je milite pour le retour au petit format. Comme ça fait du bien parfois de voir des films qui ne font pas 2h15, comme certains Django, pour ne pas le citer.
Et il n'y a pas que lui, hein, parce que
il y a vraiment
tous ceux
pas
qui
que
arrivent,
lui.
Oui.
Exactement. D'ailleurs, les suivants, par exemple, ne sont pas exactement le même format. On passe à la brute.
Je peux te parler franchement? Tu vas pas apprécier. Je suis pas ton ami. Je vais pas t'aider. Je vais te briser. Des questions?
Oui, moi j'en ai une de question. J'aimerais savoir pourquoi on nous présente ce film Zero Dark Thirty comme étant totalement irrévérencieux par rapport aux États-Unis et comme étant un film qui dénonce la torture alors qu'au contraire, en fait, il en fait complètement l'apologie. Donc voilà, La Brute, c'est Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. un film, bon, avec lequel on se fait matraquer depuis des mois, et puis ça, on va en prendre jusqu'aux Oscars, sans doute. La scène d'ouverture, surtout, dont on nous parle, est vraiment loin d'être aussi insoutenable qu'on nous l'avait présentée. Surtout, elle est loin de faire preuve de véracité, parce que je pense que la vision de la torture est extrêmement édulcorée, surtout dans cette première partie, en fait, qui est censée être la demi-heure un petit peu choc du film. Demi-heure qui met d'ailleurs en scène l'excellent Reda Kateb. C'est juste un petit peu dommage qu'à chaque fois qu'on voit un acteur arabe dans un film américain, ce soit forcément pour jouer un terroriste. Surtout que là, en l'occurrence, c'est un acteur français. Donc bon, c'était suffisamment rare pour qu'on le note. Le plus violent dans le film, qui était pourtant précédé comme ça d'une réputation de brutalité extrême, bah, en fin de compte, c'est le son qui a tendance à nous exploser un peu trop souvent aux oreilles. En dehors de ça, Zero Dark Thirty, c'est un film qui est plutôt monotone, presque ennuyeux, qui raconte surtout la traque de Ben Laden. Il y a finalement très peu d'action. Et surtout, bah, il faut bien le dire, la mise en scène est loin d'être virtuose. Alors vraiment très loin. Donc je ne le conseille pas forcément. Certes, c'est un film à voir, c'est un moment de cinéma qui n'est pas non plus raté. Mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre et j'espère que ça ne gagnera pas trop de prix non plus parce que ça ne le mérite vraiment pas. Et en partie surtout à cause de ce discours, comme je le dis, qui est extrêmement ambigu.
Oui. Ouais.
Voilà, et qui est complètement contraire à ce que les médias ont dit dessus.
Bah, c'est partagé dans les médias. Hein. Il y a ceux qui disent, voilà, elle ne prend pas parti, elle ne prend surtout pas parti. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu prends pas parti finalement que tu cautionnes.
On peut dire qu'elle
prend
parti.
C'est une vision documentaire
fait,
un peu.
En fait, elle prend parti à travers les deux personnages qui sont choisis pour raconter cette histoire, joués par Jessica Chastain et je ne sais plus comment s'appelle l'autre acteur. Et ce sont clairement des personnages qui sont pour la torture en fait, qui s'en servent pendant tout le film et qui la trouvent totalement légitime. Donc à partir du moment où on raconte une histoire d'un point de vue comme ça, forcément on adopte ce point de vue en quelque sorte, parce que là c'est pas du tout nuancé. Il n'y a pas de contrepoint en face, quoi. Il y a un seul discours dans le film. Bref, on passe pour finir au raté de la semaine. Le raté de la semaine, c'est L'ivresse de l'argent de Im Sang-soo, un réalisateur sud-coréen qui avait pourtant été encensé il y a encore quelques années avec notamment Le Vieux Jardin et plus récemment The Housemaid. Son nouveau film, celui-ci, a été un grand succès en Corée du Sud. Pourtant, quand il est passé à Cannes, il a fait un flop absolument énorme et je pense qu'il ne marchera pas du tout en France. Alors, dans L'ivresse de l'argent, un jeune homme que je soupçonne d'être un petit peu l'équivalent coréen de Arnaud Duvauchel, c'est-à-dire bien gaulé mais pas très éloquent.
Nicolas
Duvauchel. Voilà, de toute façon, il n'y a tellement aucun charisme que j'en oublie même comment il s'appelle.
Ah bah, tu pourras le voir samedi, il est à Clermont-Léraud. On ira le saluer.
D'accord, on en reparlera alors en fin d'émission. Donc un jeune homme devient le secrétaire d'une famille de milliardaires. Il se retrouve ainsi au cœur de leurs affaires à étouffer et de leurs secrets d'alcôve. Cette base de scénario est très classique. On jette un ingénu dans la fosse aux lions et on regarde de quelle manière est-ce qu'il va s'en sortir. D'autant plus que là, le réalisateur profite en fait des personnages pour faire passer des messages qui sont extrêmement lourds. Il nous matraque d'idées moralistes sans aucune subtilité, tout est premier degré. Le message du film est clairement délivré dans son intégralité en fait, au cours des 5 premières minutes. C'est-à-dire l'argent rend les gens mauvais, l'argent c'est mal. Donc il faut fuir l'argent pendant toute sa vie si on veut rester heureux et si on veut rester intègre. Et surtout, les personnages sont complètement caricaturaux. Les acteurs les interprètent également de façon extrêmement outrée. Et ils interprètent comme ça en quelque sorte des espèces de figures totalement figées dans des belles postures et dans des belles robes de créateurs. Le film a un petit peu à cette image, très beau, très figé, très froid. Et finalement, L'ivresse de l'argent, bah, il souffre de ce mal qui est inhérent à beaucoup de films qui se revendiquent subversifs, c'est-à-dire qu'ils sont aussi plats qu'ils se voudraient dérangeants. Donc là, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de soins apportés au décor et on aurait préféré que ce soin soit consacré à l'écriture d'un scénario qui soit un peu digne de ce nom, parce que là, on va jamais plus loin finalement que qu'un scénario digne d'une série américaine. Alors, quand je dis série américaine, je dis pas Homeland, je pense plutôt les séries un petit peu bas de gamme des années 90. Là, c'est ce style-là qu'on va retrouver. Et c'est très dommage, voilà, ça ne convient pas du tout au cinéma de Im Sang-soo, il s'est un petit peu raté sur ce coup-là.
Ouais. Donc c'est un film avec des gros sabots qu'on entend arriver au loin.
Avec des hauts talons aiguilles plutôt.
Voilà. Ouais.
Voilà.
Et de Im Sang-soo, il y a Une femme coréenne qui était un très très bon film. Et puis The President Last Bang qui était aussi un merveilleux film. Et lui aussi, tiens, il était venu à Clermont-Léraud dont on parlera en fin d'émission avec ce festival La Rembobine, c'est Cinérama.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie.
Sur Divergence FM.
Parlons maintenant de Amitié sincère. Après Alceste à bicyclette sur l'île de Ré la semaine passée, voici Walter, Paul et Jacques sur la belle île de Charente-Maritime. Walter, c'est Gérard Lanvin, un type grande gueule qui ne supporte pas qu'on lui mente, mais qui ne laisse pas les autres forcément en placer une. Les autres, c'est un cercle restreint, deux amis de longue date, et puis sa fille qui a une liaison avec l'un d'eux. Alors comment va-t-il digérer les vieux secrets comme les nouveaux? Faut-il tout se dire? Alors le film a une facture classique, on pense à Claude Sautet surtout, le même univers bourgeois avec le questionnement qui se déroule petit à petit, le temps de la fiction. Alors peut-être trop lisse et classique pour être marquant, mais l'ambiance est chaleureuse avec ses quelques pointes d'humour. Et puis le casting eh bien, a fait ses preuves, il y a Gérard Lanvin, il y a Jean-Hugues Anglade et Vladimir Yordanov. Et puis dans le rôle de la jeune fille un peu paternée, on pourrait dire, il y a Anna Girardot. On va écouter eh bien, un court extrait de la conférence de presse qu'ils avaient donnée lorsqu'ils étaient venus à Montpellier.
Pour moi, l'amitié, c'est une question de longévité.
Salut, Walter.
Salut.
Dis-moi qu'il n'est pas là.
Arrête, je suis parti à moins 10, là.
Avec Jacques et Paul, ça fait 30 ans que ça dure.
Et tu sais pourquoi?
Parce que vous vous dites tout, je sais.
C'est exactement ce que ta mère n'a pas compris.
L'idée, c'était d'aller dans le sens de l'écriture. Déjà, donc, trois personnes vraiment différentes. L'autodidacte, l'artiste avec un brin de génie. Et le libraire très en retrait, très intellectuel, un peu élitiste. Et on voulait justement que ces acteurs-là soient un peu comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre Jean-Hugues dans les pattes de Gérard, parce que ce sont deux stars. Voilà, il y en a un qui va du côté de Chiro, l'autre qui fait les spécialistes, mais qui fait aussi quand même le vice préféré. Donc en même temps des gens différents, déjà en tant que dans leur parcours d'acteur. Et Vladimir, là c'est Gérard qui nous a parlé de Vladimir la première fois. Et il a eu de la bonne idée dans le sens où Vladimir, on voulait pas, sans savoir vraiment se l'expliquer et comment, mettre dans ce trio trois acteurs très connus. Il en fallait deux, parce que la confrontation entre le père et l'amant était essentielle, et là, leur aura d'acteur était utile. En revanche, dans le rôle de Jacques, il fallait quelqu'un qui ait un peu plus de recul, que les gens connaissent moins, pour que le personnage de Jacques, qui était un vrai recul sur l'histoire déjà, et une vraie élégance, soit pas marqué, si ça avait été, je vous dis n'importe quoi, on parle souvent de Daniel Auteuil, parce que c'est quelqu'un qui a été proposé, mais Daniel Auteuil a une personnalité trop forte, pour le coup, déjà dans l'imaginaire des spectateurs, et on voulait quelqu'un qui n'ait pas cette... En tout cas, cette force médiatique-là.
Elle a besoin de respirer, de changer d'air. Et c'est une femme, Walter.
Mais enfin, une femme. Enfin, tu rigoles, non?
Je fais son réolaire.
La prochaine fois que t'as un problème, tu m'en parles à moi d'abord, oui. Pas à ta mère. Hein, c'est avec moi que tu vis.
Tout le monde change, Walter. On n'y peut rien, ni toi, ni personne. Tout le monde change.
Pour moi. C'est-à-dire, il a un grand regret. Quoi. Il a perdu une femme. Une vraie femme. Une femme, quoi. Sa femme. Et si on l'oriente sur même un regard sur une femme, une différente, on ne peut pas rattraper ce qu'on a rattrapé, parce qu'au départ, ils se parlaient assez froidement. On a retravaillé ensemble tout ça. Et je leur ai dit, moi, je voudrais qu'il y ait une ouverture avec Zabou, parce que ça serait dommage de se priver de cette femme-là.
Eh ben, tu devras.
Faut que je lui parle.
Non, pas maintenant.
Plus on attend, plus ça fait mal, tu sais bien.
Quand Walter est heureux, tout le monde doit être heureux.
Alors je veux savoir le nom de ce petit con qui se tape ma fille, c'est tout.
Mentir, c'est pas la solution avec moi, t'as compris?
De toute façon, t'as toujours raison.
Voilà, donc c'est un petit extrait de la conférence de presse qu'ils ont donnée. Et maintenant, la petite rubrique Gérard a dit. Gérard Lanvin, on l'écoute.
Si on avait des vrais producteurs, ils nous diraient on veut deux volets. Parce qu'ils auraient intellectuellement déjà le cerveau assez développé pour comprendre que ça mérite une suite, même si on ne connaît pas encore le résultat des courses. On a affaire à des financiers aujourd'hui, c'est des comptables. Les mecs, ils s'en foutent que ça marche ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer l'argent. Si on rentre l'argent avec, s'il y a des entrées, on fera une suite. Parce qu'ils diront, c'est dommage de ne pas faire de suite. Mais si on ne les fait pas, il n'y aura jamais de suite.
Oui, bon, bah, ça, c'était facile à dire.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Alors, les trois premiers.
Oui, allez, oui, du coup, on revient à la fin de notre top 10, enfin de mon top 10, en fait, je ne vais pas parler au nom de la communauté. Et on passe, du coup, au troisième, une fois que j'aurai mes feuilles devant moi. Le troisième, c'est « Vous n'avez encore rien vu », alors d'un jeune réalisateur de 90 ans, prénommé un certain Alain René, qui ferait mentir Tarantino, d'ailleurs, celui qui disait... Il n'y a pas si longtemps qu'après 40 ans, les réalisateurs avaient du mal à se renouveler.
Ah oui.
Pour le coup, un René, c'est un petit peu l'inverse. C'est un peu le Benjamin Button du cinéma. C'est que plus il avance et plus finalement son cinéma affiche comme ça une fraîcheur complètement décomplexée. Il continue à explorer l'image, les acteurs, à expérimenter. Et la preuve ici avec ce « Vous n'avez encore rien vu » qui portait très bien son nom et qui a vraiment été un des meilleurs films de l'année. Le second maintenant.
Je te jure, ils ont tué un putain de flic. C'est tous des mafieux, ces gros bourrins, tous des activistes du Vlaamse Gezang.
Pardon, oui, voilà, c'était Bullhead. Je sais que tu partages mon avis sur ce coup-là. Je ne vais pas en reparler trop parce que tu en avais déjà pas mal parlé quand c'était sorti l'hiver dernier. En tout cas, c'est un film avec la révélation pour moi de l'année, à savoir Matthias Schoenaert. Et j'espère bien qu'il aura un petit César.
Pour de rouillé d'os.
Non.
Ah, pour Bullhead.
Pour le meilleur film étranger.
Ah oui.
Ça serait amplement mérité. Quoique celui-ci, le numéro 1, pourrait aussi l'avoir. Je l'aurais bien laissé jusqu'à la fin, mais bon, il faut couper. Le premier, donc, c'était Laurence Anyways. Alors, moi, personnellement, j'attends toujours que Xavier Nolan nous ponde une daube, mais rien n'y fait. C'est son troisième film. Il a 22 ans et c'est toujours aussi bon. Donc, voilà. Lui, c'est un petit peu l'inverse de René. Exactement. 70 ans les séparent. Voilà, donc Dolan, après, je sais, on ne peut pas être mitigé. Soit on adore, soit on déteste. Mais en tout cas, on ne peut pas nier que malgré son jeune âge, il a déjà compris énormément de choses à la vie et au cinéma.
Eh bien, merci Marine d'avoir clos de belle manière ce top 2012.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
On parle très très vite de cette psychoque pacte de Martin McDonagh. Oui, je vais y arriver. C'était lui qui avait fait Bon baiser de Bruges ou je sais plus, c'était ça. Voilà. Alors, ami de la déconnade, des gros flingues, de la testostérone tendance misogyne avec un zeste de folie contrôlée, ce film est pour vous. Nous plongeons avec cette psychopathe dans le questionnement de la violence au cinéma. On est avec Marty, un scénariste hollywoodien en panne d'inspiration qui a une idée, faire un film qui s'appelle Cette psychopathe, pile poil celui qu'on voit. Alors, pour écrire cette histoire, eh bien, il est aidé par son meilleur ami, Rockwell, qui d'emblée a une sympathie avec le sujet. Il fait la connaissance de plusieurs individus qui s'avèrent être des psychopathes plus ou moins dangereux. On voit plusieurs mises à mort avec de l'essence, des explosions, des lames, des pistolets évidemment. Pourtant, Marty aimerait que des sentiments plus profonds ressortent de ces personnages qui en tiennent quand même une bonne couche. Nous sommes ici dans un exercice de style qui questionne la représentation de la violence au cinéma. Le parti pris est d'en rire. Les situations sont tellement ironiques, voire grotesques, que la violence est déréalisée. Dès lors, on est spectateur d'une farce bien menée avec un casting et des personnages bien fichus. Notamment dans le casting, on retrouve Christopher Walken en espèce de voleur de chiens. Et puis, il y a aussi Tom Waits en amoureux des lapins. Voilà, il caresse toujours un lapin. On écoute la bande-annonce.
J'ai pas envie d'un énième film avec des excités de la gâchée. J'ai surtout envie d'un truc qui parle d'amour.
Tu parles quelle langue, bébé ?
Vietnamien.
On n'a pas fait une super guerre contre vous à une certaine époque ?
Et de paix.
La paix, c'est pour les fiottes.
Voilà, donc on entend à peu près le niveau. En tout cas, ça passe en version originale sous-titrée au cinéma Diagonal et puis en version française au Gaumont Multiplex.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
L'agenda maintenant à l'Utopia. Demain à 21h, le grand retournement en projection suivi d'une rencontre avec Gérard Mordillat, qui en est le réalisateur, donc à l'Utopia. Le lundi 4, c'est Kon Bing, la longue nuit indochinoise de Lam Lee. C'est un film documentaire qui a été écrit par Pierre Dôme, qui est ici journaliste à Montpellier et qui avait donc écrit un livre Immigrés de force, les travailleurs indochinois. Et puis, eh bien, on peut parler très largement de... je ne l'ai pas dit, mais c'est au Diagonal, donc lundi 4 février. À 19h45. Et puis, donc, le festival La Rembobine, qui commence à Clermont-l'Hérault, 31 janvier au 3 février. Il y a plein de choses à voir là-bas. Notamment, il y a des invités. Il y a celui que tu adores, Nicolas Duvauchel, qui sera là samedi.
Arnaud Duvauchel.
Avec Solveig Hanspach, donc, qui est une réalisatrice. Il y a Philippe Rebaud, Édouard Deluc. Ils seront là samedi. Vendredi, il y a Jean-Pierre Améris, qui a fait L'Homme qui rit. Bruno Lejean, Les Fils du Vent, c'est demain jeudi. Et puis, il y en a d'autres dimanche. Vous pouvez connaître tout le programme. C'est un festival plutôt intéressant, bien fourni. Et cette année, eh bien, le thème, c'est les acteurs et le théâtre. C'est du 31 janvier au 3 février à Clermont-l'Hérault.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, aujourd'hui on avait parlé de trois films qui sortent aujourd'hui, de trois films que vous pouvez encore voir dans les salles. Et la semaine prochaine, on verra.
Juste après l'émission, 24 notes secondes sera consacrée cette semaine à Tom Selleck.
Super.
À la semaine prochaine.
Et merci à Bruno.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.